Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Ça y est, la semaine touche à sa fin et petit à petit, la France continue à se déconfiner progressivement. Les cinémas, les théâtres sont toujours fermés, les salles de concert aussi. Rares sont les musées suffisamment petits et suffisamment organisés, susceptibles de reprendre leurs activités, mais il y en a quand même. On aura l'occasion d'en reparler très bientôt. Alors c'est du côté du livre que les Français qui en ont marre des mots croisés, du sudoku ou des séries espèrent étancher leur soif de culture. Les librairies rouvrent peu à peu, il faut bien les fournir en nouveautés et les maisons d'édition reprennent petit à petit une activité presque normale et se relève avec plus ou moins de difficultés des dernières semaines. Bonjour Fanny Blechner.
Bonjour Jean-François.
Vous avez pu vous entretenir, Fanny, avec les responsables de différentes structures.
Editis est l'un des plus grands groupes dans le secteur de l'édition en France. Il compte à lui seul 52 maisons. Les équipes ont, comme tout le monde, été prises de court par l'épidémie et ont dû s'organiser en urgence. La production a été perturbée, mais pas arrêtée, et le groupe a fait appel à des transporteurs indépendants pour la distribution. Résultat, l'activité n'a jamais vraiment cessé, nous explique François Lyotard, directeur des opérations industrielles.
Les commandes de fabrication auprès de nos partenaires imprimeurs ont bien évidemment été ralenties durant le confinement. Mais nous avons assuré la réception des livres commandés avant le confinement pour ne pas bloquer nos imprimeurs partenaires. C'était pour nous important, non seulement pour assurer une fluidité dans l'exploitation de nos partenaires, mais également pour assurer la disponibilité des références.
Une façon aussi d'éviter aux librairies, dont les portes ont été fermées durant près de 2 mois, de crouler sous les stocks.
Editis s'accréditait immédiatement tous les avoirs des retours de livres enregistrés et a suspendu la parution des nouveautés.
Les nouveautés, justement, qu'en est-il ? Élément de réponse avec Michèle Benbunan, la directrice générale d'Editis.
Même ce qui avait été prévu pendant les mois de mai, juin, juillet, ont été revus à la baisse puisque les libraires redémarrent, comme les enseignes, redémarrent leur activité et ne peuvent pas forcément faire face au traitement de toute la nouveauté. Tout a été revu à la baisse, à la fois le nombre de titres et les quantités, et les auteurs, nous avons décidé évidemment de leur payer tout ce que nous leur devions, tous les avaloirs, de payer les droits d'auteur et d'essayer autant que faire se peut qu'il n'ait pas à subir en tout cas les conséquences de cette crise.
Durant cette période, le groupe s'est aussi appuyé sur d'autres supports que le papier. Il a proposé différentes offres digitales, mettant par exemple gratuitement à disposition des manuels scolaires. Les contenus numériques ont été un véritable relais.
La vente des e-books de littérature de jeunesse et young adulte a augmenté de 150% en avril. Le téléchargement de nos applis de maternelle, Luditab, Maxi Loto, Maxi Pulse ont été multipliés par 20. Nos applications de réalité augmentée, Nathan Live, ont également connu des pics de téléchargement.
Les livres audio, eux aussi, ont rencontré un vrai succès. L'activité d'Editis revient maintenant à la normale, mais on le sait déjà, la rentrée littéraire ne sera pas une rentrée comme les autres.
Eh bien, elle ressemblera à une rentrée littéraire un peu à minima, avec moins de titres, avec des quantités moins importantes, avec des titres peut-être plus ciblés sur ce que nous pensons être les préoccupations des Français après cette crise.
Difficile d'avoir une telle visibilité pour les petites maisons d'édition. Beaucoup craignent tout simplement de mettre la clé sous la porte, selon Frédéric de Horajo, directeur de l'une d'elles, à KFG.
Malheureusement, sur l'ensemble des maisons d'édition, il risque de ne rester que 10%. Les 10% représentent les grosses maisons d'édition, en fait.
Car les plus petites n'ont pas du tout pu travailler durant le confinement, les salons ont été annulés et la situation s'annonce encore compliquée pour les semaines à venir.
Le temps que les distributeurs et les diffuseurs puissent d'abord rediffuser nos livres ou récupérer ceux qu'on avait déjà envoyés, on va être obligé de récupérer les stocks. Et il y a en gros une dizaine d'ouvrages qu'on avait sortis qui, je parle pour moi, qui vont se retrouver au pilon, quoi.
AKFG emploie 4 personnes, mais en fait travailler 10 en temps normal, avec les correcteurs et graphistes indépendants notamment. Pour le moment, tout le monde est au chômage technique. Frédéric de Horajo demande l'aide du gouvernement et pas seulement la constitution d'un fonds.
Imposer un quota auprès de ces grandes distributions pour que justement il y ait une préférence auprès des petites maisons d'édition pour aider la pluralité culturelle. Et enfin aussi réduire les tarifs postaux afin qu'il y ait une égalité au niveau de l'envoi des livres auprès des clients. Les coûts sont énormes proportionnellement à ce que l'on pourrait avoir face à Amazon ou autre.
Il a mis en ligne une pétition qui à ce jour a déjà recueilli plus de 25 000 signatures.
Fanny Blechner dans VMD. Allez, on part en voyage dans VMDN, un voyage musical entre La Havane et Medellin, entre Bora Bora et Carthage, en passant par Séoul, Nagasaki et Chicago. C'est à la fois par les notes de son piano et par ses clips à l'esthétique léchée que Sofiane Pamart nous entraîne à la découverte du monde et de son monde. Un univers contemplatif et onirique que partage avec nous ce fils du nord de la France aux origines berbères et au parcours atypique, puisque ce médaillé du conservatoire de Lille s'est d'abord fait connaître en accompagnant des grands noms du rap franco-belge. Planète, le premier album solo de Sofiane Pamart, est disponible chez Urban Pièce et vous m'en direz des nouvelles. Sofiane Pamart.
Bonjour.
C'est par Paris que nous commençons ce voyage musical. Le nomadisme, comme je le disais à l'instant, ça fait un petit peu partie de vos gènes, non ?
Oui, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui se transmet vraiment dans le sens, et cette nécessité d'être toujours en déplacement, de jamais pouvoir rester au même endroit trop longtemps. Et c'est quelque chose que je ressens depuis tout petit, cet appel du voyage constamment.
Le visuel,
c'est lié à mes origines, ouais.
Oui, le visuel de la pochette est d'ailleurs directement lié à ça. Hein. Vous nous décrivez la photo ?
C'est ça. Alors, donc, sur la photo, je porte un chèche. Je suis dans le désert marocain. Et donc, c'est vraiment, je suis dans la région d'où vient mon grand-père. Et en fait, on a pris ce cliché naturellement comme ça avec un téléphone. Et de là, après, il y a eu le travail graphique qui s'est fait autour. Et pour moi, c'était important d'avoir une pochette qui renvoie à mes origines.
Oui, et pourtant, on est assez surpris quand même, Sofiane Pamart, parce que il n'y a pas de morceau intitulé Sahara ou Taroudan, hein, c'est de cette région-là que vient, je crois, votre grand-père. Il n'y a pas de morceau sur le désert. En revanche, il y a des morceaux sur les villes. Vous êtes quand même plus attiré par les milieux urbains que par les grands espaces déserts.
Bah oui, en fait, c'est toujours plus facile de raconter des villes qui sont pas forcément liés à l'histoire personnelle que de vraiment parler de ces histoires personnelles. Et donc ça, je vais le faire, mais plus tard. Donc, c'est pour ça que pour moi, la manière la plus habile et discrète de le faire, c'était de le mettre sur la pochette sans en faire tout de suite un morceau, mais c'est prévu.
Bon, il y a quand même un morceau intitulé Alaska, mais là, on est plus dans le désert blanc que dans le désert aride quand même. Hein.
Voilà, c'est ça, un désert froid.
Comment est-ce que vous les avez choisis, ces 12 lieux que vous nous emmenez visiter en musique ?
Bah, c'est des lieux que j'ai visités, sauf Alaska justement. Et donc à chaque fois, en fait, c'est des lieux qui m'ont inspiré, où j'ai vécu des choses là-bas. À chaque fois, il y a une anecdote qui enclenche un morceau, et c'est comme ça qu'en fait j'ai tissé ma propre carte du monde.
Mais les morceaux ont été composés sur place ou pas du tout ?
Beaucoup, la plupart ont été composés sur place, oui. Et donc par exemple, il suffit d'un cigare. J'ai fumé un cigare à La Havane, dans une ambiance très, très particulière, et puis en fait ça m'a procuré certaines émotions qui font que derrière j'ai voulu les transmettre en musique.
Thank you. Et là, on est donc à La Havane, Sofiane Pamar. Alors, vous nous expliquiez à l'instant que c'était en fumant un cigare que vous avez eu l'idée de composer ce morceau. Comment est-ce que vous êtes passé du cigare à votre piano, de la fumée à vos notes de musique?
Bah, c'est en fait, y a des moments où je ressens des choses et je n'arrive plus à les expliquer par des mots. Et donc, à ce moment-là, la seule manière pour moi d'aller au bout de ce que je ressens et de m'en libérer, c'est de le mettre en musique. Donc c'est un ensemble. Il y a eu ce cigare, il y a eu des danses, il y a eu de la vie dans les rues, surtout à la Banaviera, qui est vraiment magnifique. Et j'ai vu aussi un concert, j'ai vu Buena Vista Social Club là-bas, ça m'a aussi inspiré.
Et la musique cubaine a directement influencé votre manière de composer?
Oui. Bah, en fait, là, ça s'entend surtout dans le mouvement de la main gauche, où en fait, il y a un mouvement dansant qui est permanent, sur lequel la main droite, elle rajoute une mélodie qui est libre. Et par-dessus. Et donc, en fait, c'est ce côté un peu dansant cubain qu'on retrouve dans la main gauche et après que je m'aurais approprié au piano à ma manière.
À chaque destination, évidemment, sa musique, Sofiane Pamar, mais aussi son clip, hein, réalisé par votre ami Guillaume L'Héritier. Le visuel, ça compte autant que la musique?
Ah oui, et énormément. En fait, pour moi, je vois le visuel comme l'extension, hein, le prolongement de ce que je fais au piano. Et en plus, le piano se prête beaucoup à soutenir l'image aussi. Donc, on avait envie de compter tout ça, de raconter notre propre univers. Et donc, c'est des univers où à chaque fois, on est seul dans des villes complètement désertes et on essaie de mettre l'accent sur la beauté de la ville.
Et donc, c'est la musique qui induit les images et la scénarisation du clip.
Oui, c'est toujours dans ce sens-là. Et Guillaume Héritier, donc, qui est aussi mon manager, mais là-dessus, j'ai vraiment confiance en sa manière de voir les choses et il arrive très bien à s'approprier cette musique à son tour et à en faire quelque chose à l'image.
Mais donc l'important, c'est ce que vous ressentez ou c'est ce que le public ressent? Parce que quand on entend la musique sans voir les images, on n'a pas forcément les mêmes qui nous viennent en tête.
Oui, exactement. Mais en fait, pour moi, c'est même dans les clips, ils sont construits de sorte qu'on puisse se faire sa propre histoire parce que il reste assez suggestif. Ça laisse de la place à l'interprétation et pour moi c'est super important. Donc il y a deux manières d'aller vers ma musique, c'est soit de la faire sans images pour qu'on puisse se faire soi-même ces images, soit d'avoir des propositions, des suggestions, des invitations au voyage avec des images en plus, mais qui laissent encore beaucoup de place à l'imagination.
Donc les clips instillent effectivement énormément de mystère, hein. Il y a des personnages comme ça que chaque spectateur peut aussi s'approprier. Bon, il y a des femmes, on imagine qu'il y a un côté un petit peu muse, hein, aussi. Et puis il y a des personnages plus masculins souvent qui sont un petit peu plus inquiétants quand même aussi. Vous aimez bien instiller une forme de mystère, une forme d'entre-deux?
J'aime bien quand c'est pas... Je trouve que le mystère a quelque chose d'inquiétant et c'est à ce moment-là que tout peut se passer, le meilleur comme le pire. Et donc j'aime beaucoup ce moment-là, ce point-là. Donc j'essaie de rester le plus longtemps là-dessus parce que c'est à ce moment-là que tout peut arriver.
Mais c'est le film qui raconte une histoire? C'est la musique? C'est les deux en même temps ou ces deux histoires peuvent être différentes?
Les histoires peuvent être différentes, mais ça dépend en fait. La musique en elle-même, elle raconte plein de des choses à sa manière et la musique plus le clip, ça raconte d'autres choses.
Alors, il y a des choses très inquiétantes et puis il y a des choses quand même qui sont beaucoup plus positives. Par exemple, le Caire, c'est quoi? C'est une image, une histoire d'amour, un peu torride?
C'est ça. Voilà, c'est exactement. Le Caire, c'est vraiment la romance. C'est une double romance, le Caire. Donc, on a deux romances qui ont lieu en parallèle. Et donc, c'était vraiment important pour moi d'aller le faire, d'aller tourner ça sur le Nil pour avoir un peu la romance idéale.
Thank you. La romance égyptienne de notre invitée Sofiane Pamard dans VMDN sur RFI au Caire, hein, l'une de ces villes que vous mettez à l'honneur à travers cet album Planète, disponible chez Urban Pias. Dans les clips, il y a une constante, Sofiane Pamard, notamment quand c'est vous qui êtes filmé, quand c'est vous qui êtes à l'écran, mais aussi à travers certains des personnages que l'on croise, à travers les personnages aussi, les paysages plus exactement, qui sont magnifiquement filmés, c'est le regard. La question du regard, la question des yeux, la question de la contemplation. Vous êtes un contemplatif, Sofiane Pamard ?
Ça se ressent, je pense, dans même dans le choix de faire un album sur le monde, sur la planète et sur toutes ces villes. Donc moi, je suis vraiment profondément inspiré par cette planète et amoureux de cette planète. Et donc l'observer m'inspire de manière infinie, en fait. C'est permanent. Donc là, j'ai fait 12 destinations, mais je pourrais en faire tellement. C'est une exploration, en fait. Moi, je pense que je suis assez explorateur dans mon rapport à la vie.
Mais qu'est-ce qui peut attirer votre regard lorsque vous vous baladez dans un coin inconnu ?
Parfois, on peut juste être face à une scène qui est parfaite, juste dans sa constitution, comme un tableau, comme un peintre. Enfin, et on oublie la notion du temps et on est juste en train de la contempler. Et ça, ça peut me mettre dans des états qui hors du temps, comme ça, qui après peuvent se transformer en musique. Donc ça peut être ça c'est vraiment dans la contemplation, ou après je suis très touché par les gens partout dans le monde, en fait, et des scènes de vie peuvent me bouleverser à chaque fois. Donc plutôt que de les garder à l'intérieur, et ben j'ai besoin de les transformer à un moment donné en musique.
Vous venez d'utiliser un mot important, c'est le mot temps. T-E-M-P-S, Sofiane Pamard. C'est vrai que oublier la notion du temps, comme vous venez de le dire, c'est pas donné à tout le monde dans le monde d'aujourd'hui qui va à 100 à l'heure. Peut-être un petit peu moins d'ailleurs depuis ces jours de confinement. Mais pour vous, justement, l'une des leçons que l'on peut retenir de la crise sanitaire actuelle, c'est justement de savoir prendre son temps.
Oui, parce qu'en fait, quand on court après les choses de la vie quotidienne tout le temps, on perd le recul. Et le recul est très important pour pouvoir faire les choix qui nous font vibrer, en fait. Les styles de vie permettent plus ou moins d'avoir ce rapport-là à l'existence. Mais quand on peut, je pense que c'est vraiment important d'avoir le temps de se ressourcer, de se recentrer sur soi.
Donc prendre le temps de s'arrêter, être attentif. Est-ce que ça veut dire qu'il faut une forme de mise en condition pour apprécier pleinement la beauté du monde ?
Oui. Je pense que la mise en condition est d'abord intérieure. C'est être dans un état où on peut recevoir un peu toutes les informations que nous donne le monde. Parfois, on n'est pas du tout réceptif. Ça dépend. Donc, je pense que c'est plus chercher ça, une sorte de soit de paix, soit de bouleversement émotionnel pour pouvoir vraiment être réactif à tout ce qui se passe.
Et c'est vrai que quand moi j'ai écouté votre album, eh bien on fait justement ce travail-là sur soi-même, parce que la musique est une façon d'ouvrir la porte justement vers ce nouvel état d'esprit-là.
Je suis très heureux de l'entendre, c'est un des objectifs, oui, de proposer un voyage intérieur. Thank you.
Alors là, Sofiane Pamart, ce n'est pas un extrait de l'album. C'est une vidéo que vous avez postée sur les réseaux sociaux il y a pas très longtemps. Hein. On était déjà en pleine crise du coronavirus. On vous voit jouer au piano dans une chambre avec un jeu sur les ombres et les lumières, une atmosphère qui rappelle un peu L'Amant de Marguerite Duras, hein, adapté au cinéma par Jean-Jacques Hano. Le morceau s'appelle d'ailleurs Ho Chi Minh Improvisation. Vous nous racontez ?
Oui, alors quand tout ça, là, cette crise sanitaire, elle a commencé à surgir. Moi, j'étais en plein voyage en Asie, et donc cette session a été improvisée quand j'étais au Vietnam justement. Et donc j'ai dû rentrer un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu, mais c'est une session qui a été enregistrée à ce moment-là dans ces conditions, mais je suis quand même profondément touché par cette vie qui continue. Au Vietnam, la vie qu'il y a dans les rues, c'est assez incroyable. Et donc même si je commençais à devoir être un peu confiné, j'étais très inspiré par tout ça.
Oui, improvisation peut-être du point de vue musical, mais l'image, elle, est extrêmement étudiée. C'est un plan fixe. L'image dans le clip, c'est un plan fixe et l'image est extrêmement étudiée. Chaque petit détail compte.
Oui, exactement. En vrai, là, c'est le lieu où j'étais. Donc, j'étais dans ce lieu-là. À chaque fois, quand je voyage, j'ai besoin d'avoir toujours un piano pas loin pour que justement je puisse envoyer sur le piano, mais quand j'ai une fulgurance. Et ça, c'est le cadre où j'habitais. Mais c'est vrai qu'il y a un jeu d'ombre dans la manière de filmer, oui.
Oui, c'est vraiment magnifique. Alors, vous disiez qu'on était dans l'improvisation, c'est-à-dire que ce que l'on entend là, dans le clip, vous l'avez joué une fois, une seule fois ?
Oui, c'est ça, une fois. En fait, ma manière de composer, c'est que c'est en gestation à l'intérieur, et quand ça sort, en général, ça sort en une fois. Et donc, il faut que je capte tout de suite, il faut que j'enregistre, il faut que les micros soient toujours prêts pour que je puisse garder ces versions-là.
Et cette gestation-là, elle dure combien de temps ?
Pour moi, c'est la vie, c'est tous les jours, je suis comme ça, et d'un seul coup, j'ai des choses qui sortent d'un coup, et il faut absolument que je les capte, parce que j'arriverai pas à les refaire de la même manière
Ça, c'est un petit peu votre côté jazz, alors.
Oui, pour le coup, ça, c'est le côté un peu jazz, Ça, c'est des, mais bon, je me qualifierai pas de musicien de jazz pour autant, c'est juste là, les influences sont un peu plus jazz. Oui.
Mais au-delà de cette improvisation à Ho Chi Minh, vous composez directement au piano. Donc il y a déjà une forme d'improvisation dans votre façon normale, traditionnelle, classique de composer.
Voilà, exactement. Je compose toujours de cette manière. C'est que je n'écris aucune partition. On les écrit pour moi ensuite et après je les relis parce que j'aime bien après avoir les partitions. Mais tout arrive comme ça d'un coup au piano et. Il faut juste que je sois dans le bon état pour que ça vienne.
Ah bon,
tous les morceaux ont été composés comme ça.
Et comment on arrive à ce bon état, alors, pour reprendre votre expression ?
En fait, c'est un état qui me tombe dessus. C'est que souvent, je sais pas, ça peut être une euphorie, une peine de cœur, ou bien un sentiment un peu de mélancolie, et quelque chose qui devient trop fort et qui, d'un seul coup, m'empêche de parler. Et à ce moment-là, il faut que j'aille au piano.
Donc, c'est l'émotion, les sentiments que vous avez qui débordent, d'une certaine façon, dans vos mains et sur votre clavier.
Voilà, c'est ça. Et si jamais je n'arrive pas à m'en défaire, eh bien, après, l'émotion, elle me mange à l'intérieur, comme ça. Il faut vraiment que j'arrive à le sortir au piano.
Donc, ça commence par le thème, j'imagine, de votre composition. C'est-à-dire, l'idée, c'est de trouver une mélodie particulièrement significative de ce que vous ressentez.
Voilà, c'est ça. J'entends une mélodie, elle commence à venir avec des accords qui vont ensemble et elle se mélange avec un sentiment. Et après, mais en fait, c'est après que j'étudie la mélodie et les accords, parce que quand elle arrive, c'est juste un sentiment. Et le sentiment, je l'exprime comme ça. Et après, après bien sûr, j'ai la technique pour pouvoir développer le sentiment. Mais je suis pas du tout dans l'analyse au moment où je crée.
Alors, il y a aussi un autre clip qui a été posté à peu près en même temps sur les réseaux sociaux, filmé au bord de la Han River à Séoul, en Corée du Sud cette fois. Ça s'appelle Han River Improvisation. Et là, le piano est devant une baie vitrée. On voit la rivière comme ça au pied de l'immeuble. Là aussi, c'est magnifiquement tourné. Mais la caméra, Sofiane Pamart, se promène aussi sur votre clavier, sur vos mains. Mm-hmm. Et là, on peut être surpris parce que vous jouez avec vos bagues.
Oui, oui, c'est... Je suis pas le premier pianiste à jouer avec des bagues. Avant moi, Monk l'a fait comme personne. Mais c'est vrai que j'aime bien. Et puis en plus, ça crée une sensation aux mains qui est assez agréable, qui change un peu le rapport au clavier. Et puis c'est surtout esthétique aussi.
Oui, parce que le toucher, évidemment, est extrêmement important pour un pianiste virtuose comme vous. Quelle est la part justement de technique et de sensibilité quand vous touchez un clavier ?
Alors, la technique, je l'ai assimilée au point de pouvoir l'oublier. Et ce qui fait que là, ce qui me préoccupe, c'est la sensibilité. Il faut que ce soit juste dans l'émotion. Et si jamais on me dit bravo, techniquement, enfin, c'était, ah, ça avait l'air tellement dur, en général, ça, je le prends très mal. Parce que si on me dit que ça avait l'air dur, c'est qu'on s'est pas pris l'émotion.
D'accord. Donc pour vous, c'est pas une performance.
Non, pour moi, j'aime pas quand on se prend juste l'aspect technique. Moi, j'aime bien quand l'aspect technique, on l'oublie et qu'on se prend plus l'émotion.
Vous vous souvenez de votre premier clavier, Sofiane Pamart?
Oui, mon tout premier clavier, je m'en souviens, c'est parce que c'était un jouet, en fait. J'étais tout petit, j'avais 3 ans, et c'était un moment où, en fait, avec un jouet, je commençais à rechercher les notes que j'entendais dans les musiques de films, et donc je m'amusais comme ça. Et c'est de là, en fait, qu'après, on a commencé à me mettre au piano.
Oui, parce qu'on a vu tout de suite que vous étiez doué, quoi.
Que ça m'a tiré, que j'aimais bien jouer avec, quoi.
Ouais, et vous entrez au Conservatoire de Lille, dans le nord de la France. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas?
Alors, toute ma technique, elle vient de cette formation, la technique au piano. Et j'ai appris aussi au conservatoire, on a la chance d'être dans un rapport individuel avec des grands maîtres. Et ça, c'est au cursus scolaire classique, on a moins ça, on est toujours dans du collectif. Et là, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris parce que j'ai pu me retrouver avec des personnes qui avaient étudié un art et s'étaient remises en question sur cet art pendant toute leur vie et qui, à ce moment-là, leur préoccupation, c'était juste de transmettre les secrets qu'ils avaient trouvés. Et donc, moi, je me suis construit comme ça avec des mentors.
Alors, j'ai lu que les cours de solfège, c'était pas vraiment votre truc, c'est vrai?
Ouais, beaucoup moins, ouais. Mais non, mais en fait, j'aime bien n'en faire qu'à ma tête. Et ça, j'aime bien être comme ça depuis tout petit. Et donc, forcément, à l'école, bah, ça posait toujours des problèmes en général. Et au conservatoire, voilà, il fallait juste que je fasse. Heureusement, je faisais mes preuves au moment des auditions, au moment des examens, etc. Mais ouais. Sinon, c'est vrai que j'aimais pas respecter les règles.
Donc plutôt un élève rebelle, quoi.
Ouais, clairement. Mais bon, j'ai toujours réussi à ne pas me faire virer.
Bon, d'accord. Mais vous faisiez aussi les exercices, interpréter les classiques, par exemple, quand même.
Oui, mais ça, en fait, c'est d'un seul coup quand ça me prend, que ça me passionne. Après, j'oublie. Là, je suis plus dans un rapport de rébellion ou autre chose. Moi, Chopin me passionne, Schumann me passionne, Ravel, Debussy. Ça, c'est des compositeurs avec lesquels j'ai grandi, qui m'ont construit.
Oui, parce que Ravel et Debussy, on sent quand même aussi cette influence dans cet album Planète, hein, ces évocations très très impressionnistes.
Mmh. Ah ouais, mais non, mais de toute façon, c'est il y a tellement de secrets dans leurs œuvres. Et j'ai pas fini d'explorer tout ça. Là je n'ai plus le temps de jouer les autres compositeurs parce que je ne joue plus que mes morceaux, mais j'étais qu'à une partie du voyage avec eux.
Donc, musicien rebelle, parcours quand même très académique, médaille d'or même du conservatoire, et pourtant, Sofiane Pamart, vous avez aussi une toute autre vie artistique.
Reste cool, le petit pianiste. Qu'est-ce que tu vas faire si je tape ça fort? Hein? Si t'es pris de panique, tu vas faire quoi? Tu vas ramener la Castafiore? Reste tranquille, moi j'ai pas grandi dans les conservatoires. Sois gentil, puis contente-toi d'être d'où je viens, on connaît moins le verbe avoir. Tu veux dire quoi? Non, monsieur, mais ce type est une brute énorme. Il est méchant, allez, punissez-le. Il va me parler de pute et de drogue. Bah, ici on n'a pas les mêmes règles, on sent pas les couilles des parades et les puretés de forme. Pour te ramener 6 pieds sous terre, je n'aurai jamais besoin d'aucune clé de sol. Bah, garde la pêche, petit binocle, garde-moi être ton pire cauchemar. On s'en tape, qu'à tes 2 ans, tu jouais déjà la 47ème symphonie de Mozart. Enlève-moi ce truc et ce chapeau. Remets ta perruque et tes sabots. Tu restes le premier de classe, même si dans les clips tu fais brûler des pianos. Viens. Petit pianiste, viens, on est d'accord, tu as perdu ce clash. Donc tu vas mordre le bord là, puis je vais te fermer la coque à l'arrière du crâne. Oui, c'est ça que la masse veut. Bats-toi, ne me parle pas de Dieu. Voilà ce qui se passe quand on vise trop haut. On fait pas le show avec un quart de queue. Oh. Ça y est, enfin il se fâche. J'ai touché la corde sensible, on dirait. La taille de son instrument. Oui, comme ça te va bien, continue à nous jouer cet air de mort. Comment finir autrement lorsque l'on vient se battre avec un instrument qui a déjà la forme d'un cercueil d'homme? Ouh. Il est passé en mode Richard Klederman. Ça veut dire qu'il va pas bien. Il a compris que la situation était grave, je crois. Chut, laisse-le. Tu feras mieux une autre fois. Et si ça peut te consoler, je suis certain que ce n'est qu'un au revoir. Non, Sofiane n'était pas mauvais. Il restera vivant dans nos mémoires. J'ai envie de croire qu'il sera sauvé. Peut-être qu'au fond tout ça n'est qu'un cauchemar. Évidemment. Dès que tu sais plus quoi faire, t'es obligé de pomper mon pote Chopin. Vas-y, bonne chance. Hmm? Quoi? Qu'est-ce que t'as?
C'est le nom de ce titre que vous interprétez au piano avec le rappeur belge Scylla, que vous connaissez bien. Vous avez collaboré à plusieurs reprises avec lui sur les albums Pleine Lune 1 et 2. Au passage, d'ailleurs, il vous appelle Fianso, hein, c'est logique. Le Clash, c'est une grande tradition hein, dans le rap, Sofiane Pamart. Comment est-ce que vous êtes entré dans la planète rap?
Alors, tout petit d'abord, parce que c'était vraiment la musique que j'écoutais, et puis les personnes qui avaient autour de moi, ils étaient plus branchés... branché rap dans ma vie en dehors du conservatoire et en fait j'avais vraiment envie d'amener ma technique du piano au côté des rappeurs et donc en fait j'ai commencé à le faire avec des rappeurs que je connaissais puis après j'ai rencontré des rappeurs plus connus et de fil en aiguille en fait je me suis retrouvé vraiment à m'engager très fortement dans ce courant.
Oui, vous avez joué avec Nekfeu, Medine, Laylo, Sadek, Kerry James, Vald, Scylla, j'en passe hein. Chaque fois en fait qu'un rappeur avait besoin d'une boucle romantique qui faisait un peu appel à vous.
Oui, c'est ça. Bah après ouais, c'est en fait moi je m'étais donné un objectif en sortant du conservatoire, je voulais devenir le pianiste du rap français. Et donc j'ai commencé à faire mes preuves sur ce terrain. Et ce que j'aime, c'est que voilà, il y a un côté beaucoup plus instinctif, autodidacte et justement rebelle aussi dans le rap. Et donc je me sentais vraiment comme un poisson dans l'eau avec tout ça. Et après, à force d'une réussite à une autre, d'un morceau jusqu'à un autre, bah voilà, je me suis fait mon nom dans ce... comme ce que j'avais prévu, mais voilà, ça se passe super bien.
Et le rap et le piano-voix, c'est un couple qui va de soi?
Alors, le piano, on peut le mettre en piano-voix, enfin, pour le rap, mais il peut aussi se greffer à des prods. Donc, le piano-voix, c'est vraiment une formule qu'on a développée à fond avec Scylla. On l'a développée sur deux albums complets. Parce que ce qu'on fait ensemble, ça s'y prête particulièrement bien et on remplit des salles comme ça, juste en piano-voix, et c'est assez incroyable parce que le public réagit de manière rap, mais pour une formule piano-voix, c'est assez fou. Et d'ailleurs, on a un Olympia là, de prévu encore, enfin qui a été reporté avec tout ça,
ouais.
Qui sera en septembre. Il a été reporté fin septembre.
Eh bien, on viendra vous voir. Comment est-ce que vous travaillez avec les beatmakers, Sofiane Pamart?
Alors, on va en studio et à ce moment-là, en fait, moi, je leur fais vraiment confiance sur tout l'aspect rythmique. Et je contrôle tout l'aspect mélodique, harmonique. Et donc, parfois, ça reste du piano. Parfois, on va commencer à tordre mon piano ou on va aller vers d'autres sons. Et là, c'est plus la composition pure qui compte. Donc, par exemple, quelqu'un comme Laylo, c'est quelqu'un qui est préoccupé par le monde digital. Il a besoin que tout soit digital. Donc, il va digitaliser au maximum mon piano ou mes harmonies, mes accords.
Cet album Planète qu'on évoque avec vous aujourd'hui, il est sans voix, il est sans mots, il est sans beat, il est sans sample, il n'y a pas de featuring non plus. Ça veut dire que vous êtes en train de mener deux carrières résolument parallèles?
Oui, bah en fait, il y a mon projet solo d'artiste et puis après, il y a mes compositions ou mes collaborations avec d'autres artistes. Et je pense que ce sera toujours comme ça, j'aurai toujours le fil conducteur du piano solo. D'album en album et puis en parallèle des collaborations avec d'autres artistes, mais ça crée un équilibre en fait. Je pourrais pas faire juste l'un et pas l'autre.
Thank you. Medellin, nouvel extrait de Planète, le premier album solo de Sofiane Pamart, notre invité aujourd'hui dans VMDN sur RFI. Medellin, c'est en Colombie et puis accessoirement c'est le morceau que moi je préfère sur cet album. Alors là aussi, vous nous racontez comment vous l'avez composé ce titre-là ?
Vous que l'influence de du côté un peu mafioso de Medellin, ça m'a inspiré.
J'en étais sûr.
Ouais. Et puis moi, ce que j'aime avec Medellin, c'est que je pouvais faire quelque chose d'assez fougueux. Et pour moi, ça parle d'un mélange entre de la. Il y a une tension, il y a un peu de revanche, et en même temps, il y a toujours de la flamme, il y a toujours de la passion.
Voilà, Medellin, effectivement, c'est la ville de Pablo Escobar, hein, l'ex baron du cartel de la drogue en Colombie, de l'un des cartels de la drogue colombien. Sur Instagram, Sofiane Pamart, votre pseudo, c'est Piano King. Et vous avez dit que vous vouliez être le numéro un mondial du piano. Bref, vous avez seulement 28 ans, mais vous affichez clairement vos ambitions. C'est quoi ? C'est l'influence de l'arrogance un peu marketing du monde du rap ?
Dans le rap, on n'a pas peur de clamer fort ses ambitions, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à ouvrir les portes. Parce que c'est quand même un grand combat, le fait de se faire sa place dans l'artistique. Donc moi, j'aime bien cette mentalité. Et puis, c'est clairement un objectif que je me suis donné.
Donc être au top du top, c'est un petit peu ça qui vous fait carburer, qui vous fait avancer.
Bah oui, mais c'est une mentalité de sportif en fait. On la retrouve dans le sport, dans la musique parfois. On considère que c'est un peu tabou, mais en fait c'est moi je trouve que c'est ça en fait, d'avoir des objectifs, des grands rêves, et puis de passer sa vie à courir après.
Donc vous auriez pu dire que vous vouliez être champion du monde comme votre voisin Raphaël Varane.
Exactement, mais non, mais c'est ça, exactement. Et voilà, comme Raphaël, ouais. C'est
clair. Ouais, puisque vous êtes issu du même quartier que lui, hein. Vous êtes d'Elem, c'est ça, dans la banlieue de Lille, dans le nord de la France.
Voilà, c'est ça.
Et votre famille a, je crois, travaillé dans les mines de charbon du Nord. Bref, l'ascension sociale, elle connaît cette famille. C'est assez rassurant quand on voit votre parcours, parce que beaucoup de gens nous expliquent que l'ascenseur social est résolument en panne depuis des dizaines d'années. Ben, vous avez prouvé que il y a des exceptions.
C'est ça. Alors après, j'ai conscience quand même que des sacrifices qu'il faut pour en arriver là, parce qu'en fait, ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est le résultat de plusieurs générations d'efforts. Donc, forcément, moi, quand je joue du piano, je pense beaucoup, beaucoup à mon grand-père qui, c'était pas loin, quoi. Il était sous terre, et là, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma musique. C'est des vies qui sont très différentes quand même. Donc, voilà, c'est l'ascension sociale, elle est toujours possible, mais elle peut prendre du temps.
Mais pourquoi ça a marché pour vous et pas pour tant d'autres?
Je pense que la différence, elle se fait beaucoup à la hargne. Il faut être combatif pour se faire sa place, et la sensibilité, malheureusement, ça suffit pas.
Parce que ça a pas marché seulement pour vous, ça a aussi marché pour votre maman qui est devenue prof de lettres, votre papa qui est devenu directeur d'école, votre sœur major de Sciences Po, diplomate à 25 ans, c'est quand même plus que pas mal. Votre frère qui est ingénieur dans les jeux vidéo, c'est ça, au Canada.
Ouais, c'est ça.
C'est une vraie success story, cette famille, Pamart.
Ben oui, vous avez pas fini d'entendre parler de nous. Ouais. On va continuer. Mais c'est vraiment à la hargne. On a été élevé comme ça en fait. Et donc c'est les contrats qu'on a avec nos parents, et nos ancêtres. Et ben c'est de, en échange de tous ces sacrifices, de réussir dans ce qu'on choisit de manière très 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 forte.
Qu'est-ce que vous avez sacrifié, vous, Sofiane Pamart, pour réussir?
Moi j'ai, ben c'est parfois j'ai dû faire des choix un peu plus. Ça a pu créer certaines peines de cœur, parce que il y a des moments où en fait le choix de la carrière, j'ai toujours pris ce choix-là en particulier, et aussi parce que choisir de vivre de son art, on peut passer par des périodes un petit peu difficiles avant que ça fonctionne, et donc ça c'est aussi des périodes de sacrifice assez importantes. Mais le sacrifice pour moi, il est familial, il est encore parce que pour moi c'est incomparable avec ce qu'a fait mon grand-père sous terre dans les mines de charbon. Donc moi je trouve que c'est important en fait de ressentir le sacrifice qu'il y a eu avant soi. C'est aussi important que le sacrifice qu'on fait soi-même, et de pas toujours se centrer sur ses propres douleurs, et de comprendre aussi d'où ça vient.
Alors on parlait effectivement de sacrifice, de réussite sociale, on évoquait aussi donc rapidement votre sœur et votre frère, donc l'une diplomate, l'autre ingénieur, mais ils sont aussi tous les deux musiciens, ils vous ont d'ailleurs parfois accompagné un petit peu sur scène. Donc c'est un peu une affaire de famille aussi, la musique.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait, nos parents le sont pas, mais ils ont décidé de nous mettre à la musique tous les trois. Moi, je suis l'aîné. À partir du moment où ça a commencé à prendre un peu pour moi, les deux autres ont suivi aussi. Et puis maintenant, on se retrouve surtout sur scène. Avec ma sœur, vient souvent avec moi sur scène au violon, et mon frère aussi, on joue en quatre mains. C'est assez, c'est devenu un lien très fort entre nous, ouais, entre nous trois.
Et donc, on peut imaginer un album de la famille Pamard.
Ouais, faut pas spoiler, faut pas en dire trop aujourd'hui, mais tout est possible, ouais.
Planète, c'est le titre qui conclut ce premier album intitulé exactement Planète. Vous êtes inquiet sur l'état de la planète, Sofiane Pamard ?
Parfois, par moments, mais après, je suis aussi un grand optimiste parce que j'ai foi aux solutions aussi que peut trouver l'homme, même si c'est le principal responsable de beaucoup de dégâts. Donc voilà, c'est parfois inquiétant, mais je préfère pas me rester dans ces pensées-là. Je préfère être de l'autre côté.
Prochaine destination pour vous, Sofiane Pamard, parce que j'imagine que vous allez quand même si c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, continuer un petit peu à nous faire voyager autour du monde.
Oui, je pense que je vais explorer encore davantage l'Asie, parce que c'est une destination qui me passionne.
Merci beaucoup Sofiane Pamard de nous avoir fait voyager justement en musique. Planète, votre album est disponible chez Pias Urban. Merci infiniment.
Merci à vous.
Fin de cette émission. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi avec la romancière Patricia Reznikov pour son roman Amrita. Il nous raconte la vie d'une peintre méconnue, mais au destin extraordinaire, Amrita Shergill, fille d'une chanteuse lyrique juive hongroise et d'un aristocrate indien, ainsi qu'érudit en sanskrit et en persan. Le livre est paru chez Flammarion et vous m'en direz des nouvelles.